écoutez Phare FM, c'est la radio Autrement avec vous dans la nuit Autrement. On est samedi le 26 juillet, bienvenue.
La Bible dit...
Il vaut mieux être un pauvre qui se conduit honnêtement qu'être un menteur et un sot.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune, il te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Passer l'amour, ouais, passer le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a fait. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre. Tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
Alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you
riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. And you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
Georges Evras, Shotgun sur Phare FM. Et c'est la radio Autrement qui vous accompagne toujours. Et ce sera jusqu'à 7h et je m'en réjouis. J'espère que vous allez bien. On va écouter de la musique et on va écouter aussi tout à l'heure dans Pain de Vie, Christian Gagneux qui nous parlera des certitudes. Mais avant cela, de la musique, Couché sous les Pêcheurs de Lune et tout de suite Ed Sheeran avec Taylor Swift, The Joker and the Queen. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la radio Autrement si vous venez de me rejoindre.
Minuit 5h.
La nuit autrement
avec Mireille.
How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand and you still let me win. And who was I to say? This was meant to be. The road that was broken brought us together. And I know you could fall for a thousand kings and hearts that would give you a diamond ring. When I fall, you see best in me, the Joker and the Queen.
I've been played before. If you hadn't guessed, so I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells. Then you went all in, and we left together. And I know you think that what makes a king is gold, a palace and diamond rings. When I fall, you see the best in me, the joy. Give you a diamond ring. When I folded, you saw the best in me, the joy.
perdu la route, j'ai perdu le nord. J'ai laissé sur le sol, effacé en sursis, les photos, les décors. Touché, coulé, couché, saoulé. J'en ai bu des flacons et glissé dans les flaques pour te revoir encore. Sur des montagnes étranges, télescopées. Laisser le ciel doucement se faire dérober. Comme si l'amour nous glissait des doigts. Comme si le temps lui glissait des doigts. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. T'es cherché partout, dans ce monde si fou. Mon amour, il est si faible sans nous. Filmé en noir et blanc, écrit déshabillé. Mon amour revient, minuit sera sous nos pieds. Sur des montagnes étranges, télescopées. Laisser le ciel doucement se faire dérober. Comme si l'amour nous glissait des doigts. Comme si le temps lui glissait des doigts. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois dans mes rêves. C'est toi que je vois.
Doucement, doucement, je te vois. Je te vois, je te vois dans ce monde. Dans ce monde, doucement, sous mes draps. Je te vois doucement.
Votre message pain de vie avec le pasteur Christian Gagneux.
La certitude et la sécurité. Il peut paraître banal de dire que l'avenir est incertain. Il est même difficile pour certains. Il est dur à imaginer. Quand on voit les perspectives d'avenir qui se présentent devant nous aujourd'hui, on peut peut-être avoir peur. Certaines personnes peuvent avoir peur. La société se sent menacée par toutes sortes de choses. Autrefois, eh bien, c'était les épidémies qui menaçaient la société, qui faisaient peur, et les guerres. Aujourd'hui, c'est toujours les épidémies. Elles ont d'autres noms. Avant, c'était la peste. Aujourd'hui, c'est le sida, c'est les cancers, c'est toutes sortes d'épidémies, la grippe aviaire, toutes sortes de choses qui sèment le trouble dans les cœurs. Aujourd'hui, c'est toujours les guerres et ou les bruits de guerre qui font peur. Mais en plus, nous avons un ensemble de problèmes créés par la vie moderne qui constituent, eh bien, je crois, des fardeaux supplémentaires sur les êtres humains et sur la société actuelle, que ce soit en France ou ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Ces nouveaux problèmes sont la pollution atmosphérique, pollution de l'eau, la fonte des glaciers, réchauffement de la planète, tempêtes, etc., sécheresse ailleurs, toutes sortes de choses nouvelles que l'on entend. La vie moderne apporte ces mots nouveaux qui font peur et de plus en plus. D'autres ont peur des menaces nucléaires. On entendait récemment encore un président d'un pays que je n'ai pas besoin de citer qui menaçait d'utiliser ses armes atomiques très prochainement contre Israël. Les conditions de travail deviennent également de plus en plus difficiles. Le chômage également frappe à nos portes. Les grands de ce monde parlent de paix, mais force est de constater qu'il n'y a pas de paix. Jérémie, chapitre 8, verset 11, nous dit d'ailleurs « Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix ». Tout cela produit un climat de malaise et de panique, parfois chez certains, qui trouble les esprits et dérègle les personnes. Il y a bien sûr des prises de conscience, des prises de position, des mesures de protection qui sont prises, mais est-ce que cela suffit pour apporter la paix, le calme, la sérénité? Je ne le crois pas. Jamais on n'a connu autant d'assureurs et de compagnies d'assurance que de nos jours. On assure quasiment tout aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On peut trouver des assurances pour tout, contre tous les risques possibles et imaginables. Les primes augmentent, ça tout le monde le voit. Les primes augmentent, les garanties s'étendent également. Mais avec tout cela, l'homme assuré n'est pas du tout rassuré. Pas plus que s'il n'avait pas d'assurance. On comprend alors que beaucoup de gens sont remplis de désillusions et que les médecins ont beaucoup de travail et que les psychiatres ne chôment pas. On a recours aux calmants, aux somnifères, à l'alcool, à la drogue pour échapper aux tristes réalités quotidiennes. C'est le thème principal du message. Je l'ai appelé « certitude dans l'incertitude, sécurité ». Dans l'insécurité. L'homme, dans sa nature, a horreur de l'incertitude. Il veut savoir où il va. Et l'homme a besoin d'être rassuré. Alors, c'est pas étonnant de voir beaucoup de gens consulter des voyantes, des devins et toutes sortes de gens pour connaître leur avenir. Pourquoi ? Parce que l'avenir fait peur. Il est incertain. Alors on veut savoir, on a besoin de savoir. Alors on va voir ces gens-là. Je lisais l'autre jour, la voyante n'avait rien vu. En fait, c'est un inspecteur du fisc qui était allé rendre une visite chez une voyante. Il s'est fait passer pour un client et au bout du compte, il lui a fait la facture. Elle n'avait pas vu qu'elle avait affaire à un inspecteur du fisc. C'était le titre, la voyante n'avait rien vu. Alors, aujourd'hui, la question est, qu'est-ce qui peut me donner une vraie assurance pour l'avenir? Moi, je me réjouis parce que, depuis le commencement, on a entendu parler de la foi. Et je crois que la foi seule peut nous donner une vraie assurance quant à l'avenir qui est devant nous. La foi, et je vous propose d'ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, Samuel nous a déjà récité un extrait de ce chapitre. Je me réjouis de la conduite de Dieu. Et c'est pour moi un encouragement. C'est comme si Dieu me dit, tu vois, je prépare le terrain, vas-y. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Est-ce que nous aussi nous attendons cette cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur ? Oui, Dieu est l'architecte de la création. Dieu est l'architecte de cette terre dans laquelle nous vivons et de laquelle nous jouissons de diverses choses. Oui, mais il est aussi l'architecte de la cité céleste, l'architecte de la maison qu'il m'a préparée dans les cieux. Et ça, ça me réjouit. Amen. Ça vous réjouit de penser à votre déménagement prochain ? Les choses vont tellement vite ici-bas. Eh oui, pour ceux qui pensent qu'ils n'auront plus à déménager, c'est faux, vous allez déménager encore une fois. Mais là, je vous garantis, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Juste à être prêt. À être prêt dans votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la confiance. Une confiance totale dans la fidélité de Dieu. C'est vraiment une conviction de ce que Dieu déclare. Que ce que Dieu déclare est vrai. Ce que Dieu dit est une réalité. Et ce qu'il promet s'accomplira. Amen. La foi est une ferme assurance. Elle est une garantie. Un fondement solide. La réalisation de ce que Dieu a promis. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude des choses qu'on espère. Voilà ce qu'est la foi. Elle ne se limite pas à des possibilités, mais pénètre dans le royaume de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. La foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu ne retire aucune gloire. Mais dans l'impossible, alors Dieu retire toute la gloire. George Muller l'a dit. Les difficultés sont la nourriture de notre foi. Notre foi va grandir parce que justement, nous allons rencontrer et nous rencontrons des difficultés dans notre vie. Ce sont les difficultés de la vie qui vont nous faire grandir dans la foi et qui vont nous permettre de nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Chacun de nous avons nos lots de luttes, de combats, de difficultés pour certains, plus grande que pour d'autres, c'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais tous, nous avons à exercer notre foi pour sortir vainqueurs de ces temps de lutte, de ces temps de combat. Pour ma part, j'ai envie de ressembler à Abraham. C'est pas facile de quitter un endroit où on a des marques, des repères, un endroit où la vie paraissait simple, partir vers l'inconnu, parce que Dieu l'a demandé. Sommes-nous prêts à le faire ? Sommes-nous prêts à abandonner nos marques, nos repères, et obéir à ce que Dieu veut ? Parfois, Dieu nous demande des choses difficiles dans notre vie, des choses qui ont un prix. Je me souviens lorsque l'on m'a demandé de travailler à plein temps dans l'église, ma première réaction était de dire non. C'était la première réaction de mon épouse également, parce que c'était un choix difficile pour tous les deux. J'avais un excellent travail, je gagnais très bien ma vie, et je savais très bien que si je quittais cet emploi, j'allais perdre la moitié de mon salaire. C'était pas un choix facile, et dans un premier temps, j'avais refusé. Mais à partir de ce moment-là, je n'avais plus la paix dans mon cœur. Je n'avais plus la joie dans mon cœur. Et sans arrêt, j'étais troublé. Et je me rappelais, 23 ans auparavant, au moment de mon baptême, où Dieu m'avait dit, au travers d'une parole, d'une prophétie, qu'il m'appelait à le servir à plein temps. Parfois, nous sommes devant des choix difficiles. Comme Abraham, il nous faut accepter parfois d'abandonner notre petit confort et partir vers l'inconnu, partir dans l'incertitude du lendemain. On l'a vu tout à l'heure, aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve et l'avenir est incertain pour tout le monde. Mais il avait la certitude, Abraham. Il avait la certitude de la présence de Dieu, la présence active de Dieu. Et c'est ce qui peut nous rendre forts dans notre démarche. Lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies, alors nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous voyons Dieu exaucer nos prières, lorsque nous voyons Dieu conduire nos vies quotidiennes, lorsque nous voyons Dieu ouvrir des portes, donner des directions, alors nous savons que nous sommes près de lui. Dieu précédait Abraham, Dieu l'accompagnait et Dieu fermait la marche. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. C'est d'ailleurs rassurant pour nous de voir Abraham faire des erreurs aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a jamais eu de problème. Souvenez-vous, à un moment, à deux reprises d'ailleurs, il entrait dans un lieu inconnu et pour ne pas avoir des problèmes avec les gens de ce pays-là, il a raconté aux gens qui le questionnaient que Sarah, son épouse, était sa sœur, parce qu'il avait peur de mourir. Cela nous prouve qu'Abraham était un homme comme nous. Il avait des craintes, lui aussi. Il avait des craintes, il avait des peurs. Il était même prêt, pour sauver sa peau, à sacrifier sa femme. Mais en tout cas, je suis rassuré par ces histoires et ces problèmes qui me prouvent qu'Abraham n'était pas un être exceptionnel, n'était pas un homme hors du commun, c'était un terrien, avec des qualités, avec des défauts, et certainement les mêmes que les nôtres. Ce qui a été valable pour Abraham l'est encore pour nous aujourd'hui. Et si nous avançons dans l'obéissance de la foi, nous allons voir des merveilles dans nos vies. Amen. Je vois que ça en réjouit quelques-uns au premier rang. J'ai envie de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai envie de participer à la gloire de Dieu dans cette société, à l'accomplissement des plans de Dieu pour notre pays de France. Dans quel domaine et dans quelles circonstances Dieu vous demande-t-il aujourd'hui d'avoir foi en lui? Il y a des choses dans ma vie où j'ai besoin d'avoir foi en Dieu. Chacun a ses luttes, je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses difficultés. Il y a des frères, des sœurs qui sont au chômage. Ça vient de leur arriver, je l'ai entendu encore l'autre jour. Et puis il y a tout un monde qui s'écroule quand on apprend une nouvelle pareille. C'est peut-être la maladie d'un fils ou d'une fille. C'est peut-être une maladie qui nous atteint nous personnellement. Ça peut être un tas de choses. Nous ne savons pas ce que nous réserve le temps à venir ou les temps à venir. Mais nous savons que le Seigneur sera avec nous, si nous sommes avec lui. Amen. Nous devons donc veiller à lui rester attachés. Souvenez-vous, attaché veut dire coller, adhérer. Il y a quelque temps, j'avais parlé de ça, rester attaché à Dieu. J'avais dit qu'il ne fallait pas avoir une foi élastique, qu'il fallait mettre une ceinture et non pas des bretelles spirituelles, bien sûr. Hein, parce qu'au bout d'un moment, les bretelles perdent leur élasticité et on est de plus en plus loin de Dieu. On n'est plus en contact avec lui. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Le Seigneur sera ton assurance. Il préservera tes pieds de tout piège. » Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. » Est-ce que le Seigneur est votre assurance? Je désire de tout mon cœur que le Seigneur soit mon assurance. Je ne veux pas que l'argent soit mon assurance. Je ne veux que rien d'autre soit mon assurance que le Seigneur. C'est lui mon assurance. Sécurité dans l'insécurité. Le roi David savait où était sa sécurité. Dans le psaume 4, verset 8, il est dit « Aussitôt couché, je m'endors en paix. » Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Au moment où David écrivait ça, il était pourchassé par des ennemis. Et des ennemis, il en avait. Même ses propres fils, Il avait même un de ses fils, Absalom, qui cherchait à le faire mourir. Et pourtant, David était capable de dire qu'il était en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il était en contact avec Dieu, en relation proche avec Dieu. Il parlait avec Dieu, il était l'ami de Dieu. Est-ce qu'il était parfait, David ? Tout le monde connaît sa vie. Tout le monde sait que David n'était pas parfait et qu'il avait lui aussi fait dans sa vie des choses abominables. Mais il avait eu la faculté de revenir vers l'Éternel, de s'humilier, de demander pardon à Dieu, de refaire alliance avec lui, de continuer son chemin avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans cette vie pleine d'insécurité, il y a un chemin sur lequel nous pouvons avancer en sécurité. Les images bibliques qui illustrent la sécurité sont nombreuses. On nous parle d'asile, de tours fortes, de tours hautes, de remparts, de forteresses, de rochers, d'abris. Toutes ces images indiquent qu'il y a un seuil à franchir. Il faut y pénétrer et y demeurer. Cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Ce lieu sûr, c'est Jésus. Cet abri sûr, c'est lui. Ma paix, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Et mon espérance, c'est toujours lui. Est-ce que Jésus est votre espérance ? Même si on essaye de démontrer avec force et vigueur que Jésus est un mythe, que sa résurrection est une histoire qui ne tient pas debout, de plus en plus, on met la pression. Le diable sait que son temps est compté et il essaye avec force et vigueur de démontrer que Jésus n'a pas existé ou en tout cas que sa résurrection n'est qu'une affabulation. Est-ce que cela change le monde dans lequel nous vivons ? Non, je ne le crois pas. Je crois que en acceptant Jésus-Christ, c'est nous qui changeons. Ce n'est pas le monde qui change, mais c'est nous-mêmes qui changeons. Ce changement nous donne un autre regard sur le monde, une autre vision des choses. L'acceptation de Jésus-Christ dans nos vies nous permet d'avoir du recul par rapport au monde. Elle nous donne également un but à notre vie. Et la joie de participer au plan de Dieu pour le monde. Mais ne voyez pas les choses de manière sombre. Dites-vous simplement que vous faites partie du plan de Dieu et que vous avez un rôle à jouer, que vous êtes en train de jouer un rôle important dans la main de Dieu pour la société actuelle. C'est ce qu'il faut se dire, parce que c'est une réalité. Les gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus n'ont pas d'espérance. C'est pour cela qu'il y a tant de misère, tant de gens qui se prennent la vie, qui se droguent et qui font toutes sortes de choses. Nous avons un avantage extraordinaire, c'est de connaître Jésus-Christ. Bien sûr, nous vivons et nous vivrons encore des temps difficiles, mais restons dans le calme, dans la paix. Israël fut accablé pendant 4 siècles en Égypte, 4 siècles d'esclavage. Plus tard, Israël a encore été déporté à Babylone. Israël a toujours été environné d'ennemis et c'est encore valable aujourd'hui. On le lit dans la presse. Le désir de beaucoup de nations qui sont autour d'Israël, c'est de chasser les Juifs, de les jeter à la mer. C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on lit encore dans les journaux. Mais chaque fois qu'Israël mettait sa confiance en l'Éternel, personne ni aucun élément naturel n'a pu l'empêcher de progresser. Souvenez-vous, lorsqu'Israël était dans cet endroit terrible qu'est Pi Hahiroth, cet endroit alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte, ils étaient heureux, ils avaient emporté beaucoup de choses avec eux, ils avaient vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre, ils étaient partis dans le désert et ils arrivent à un endroit où Dieu les a emmenés. C'est Dieu qui a dit à Moïse, « Détourne-toi, va à Pi Hahiroth. » Cet endroit terrible où ils étaient dans un véritable piège, dans un véritable cul-de-sac, où il n'y avait aucune solution. À droite et à gauche des montagnes, devant eux, la mer Rouge, derrière eux, les Égyptiens qui arrivaient pour les tuer. Aucune solution, en tout cas apparente. C'est ce qui nous arrive parfois dans notre vie. Il nous semble parfois Eh bien, que nous sommes dans un cul-de-sac, il n'y a aucune solution pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans une situation terrible. Tu ne m'entends pas. C'est ce que le peuple disait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On disait à Moïse, il aurait mieux valu qu'on meure en Égypte. Les murmures sont montés. Dans telles circonstances, ce que Dieu attend, ce n'est pas nos murmures. Ce qu'il attend, c'est notre foi. Je conçois que c'est difficile lorsqu'on se trouve à Pi-Hahiroth, dans le Pi-Hahiroth de notre vie. Je conçois que c'est difficile d'avoir la foi. Mais la foi a permis à Moïse de voir la mer Rouge se fendre et de voir traverser le peuple entier à pied sec et de voir ensuite l'armée de Pharaon entièrement détruite. Pi-Hahiroth, c'est l'endroit où parfois Dieu nous veut pour mettre notre foi en application. Il en sera de même pour nous qui plaçons notre confiance en Jésus. Nous verrons des choses extraordinaires se passer dans nos vies. Amen. Nous verrons des choses extraordinaires se passer dans nos vies. Il ne faut pas avoir peur de ce que nous voyons avec nos yeux, de ce que nous entendons avec nos oreilles. N'ayons pas peur de ce que nous voyons. N'ayons pas peur du diagnostic des médecins, même s'il est terrible. Restons attachés à Dieu et à son plan, à sa décision, à lui. J'avais lu un jour quelque chose qui m'a encouragé. Ça s'est passé il y a bien longtemps, il y a 500 ans. La reine d'Angleterre, Marie Tudor, qui a vécu de 1516 à 1581, était surnommée Marie la Sanguinaire. Elle fit périr plus de 300 chrétiens sur le bûcher. Et elle laissa en prison beaucoup de chrétiens. L'un d'eux, Bernard Gilpin, fut à son tour condamné à mourir pour sa foi. Et il était enfermé dans cette terrible tour qui existe encore aujourd'hui, la tour de Londres, célèbre. Cet homme répétait toujours la même parole qui se trouve dans Romains 8, 26. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il répétait cela à longueur de journée. Tous les jours, il répétait cela. Il n'était pas découragé, il venait d'apprendre qu'il était condamné à mort, mais il faisait confiance, une confiance totale à Dieu. Un jour, Bernard Gilpin fit une chute dans l'escalier de la tour et se cassa la jambe. Et tandis qu'il hurlait de douleur, le gardien se moqua de sa foi et de son texte préféré et lui disait « Ah ah, vous n'allez tout de même pas me dire cette fois que cette jambe cassée est une bonne chose qui vous arrive ?» Et Gilpin lui répondit « C'est pourtant vrai puisque Dieu l'a dit. Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, même quand nous ne les comprenons pas. » En fait, le lendemain était le jour prévu pour l'exécution de Gilpin. Mais avec sa jambe cassée, le transport était devenu difficile et posait un problème. Alors on l'a laissé momentanément dans sa cellule, en prison. Peu de temps après, Marie Tudor mourut, Élisabeth Ière monta sur le trône et fit aussitôt arrêter les persécutions. Quelques jours plus tard, Bernard Gilpin fut mis en liberté. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même une jambe cassée, même parfois des choses plus terribles. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que des serviteurs de Dieu ont terriblement souffert. Il y a eu des martyrs, il y a une raison. Dieu a sa raison. Et nous devons accepter la raison de Dieu. Dieu veut nous encourager à l'écouter. Arrêtez-vous quelques instants et regardez la nature et ses merveilles. Un autre encouragement. On ne prend pas assez le temps de regarder les choses merveilleuses que Dieu a faites, toutes simples, autour de nous. La Bible dit que Dieu prend soin des petits moineaux. Observez les petits moineaux, ils sont extraordinaires. Ils sont fantastiques. Il n'y a aucun avion qui peut voler aussi bien qu'un moineau. Ils sont parfaits. J'ai tout un document sur les moineaux, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement fantastique. La structure des plumes, etc., leur poids, leur digestion. Ils ont des yeux 8 fois plus développés que ceux des hommes. C'est extraordinaire. Ils ont une toute petite cervelle, on dit cervelle de moineau, hein. Et pourtant, cette petite cervelle est capable d'enregistrer 8 fois plus, rien qu'au niveau de la vision, 8 fois plus de données que nous n'en recevons dans notre gros cerveau. Cervelle de moineau. En Chine, à une époque, On a tout fait pour éradiquer les moineaux. On a tout fait pour les chasser, les détruire. Ils ont failli disparaître de Chine pendant un moment. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on estimait qu'ils faisaient trop de dégâts dans les greniers à riz et les greniers à mil. Mais très vite, très très vite, on s'est aperçu que les moineaux étaient très très utiles. Parce que le riz et le mil étaient foutus en un rien de temps à cause de la vermine qu'il y avait dedans. En fait, les moineaux venaient manger la vermine. Bien sûr, de temps en temps, ils mangeaient des grains de riz, mais ce qui les intéressait en premier, c'était la vermine qui était dans le grain. Et alors, bien vite, on a laissé de nouveau la place aux moineaux. Leurs deux pattes sont des véritables catapultes. Quand on regarde un moineau sur une branche, on a l'impression qu'il est debout sur ses pattes, n'est-ce pas, quand on voit un moineau comme ça. Mais absolument pas, il n'est jamais debout, il est accroupi. Et le moindre bruit, vous avez déjà vu partir un moineau ? C'est une vraie catapulte, ces jambes. Une force incroyable, des vrais ressorts, les merveilles de Dieu. Moi, j'ai envie de faire confiance à celui qui a créé le moineau. Dieu nous dit dans la Genèse, il nous démontre que nous sommes sa créature préférée et qu'il nous aime forcément bien plus que les petits moineaux. Moi, j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Il faudrait conclure, le temps passe. Devant l'inconnu des jours à venir, il y a le connu de la foi. Cette certitude, cette assurance que Dieu est avec nous, qu'il ouvre les portes, qu'il a préparé le chemin. Dans les endroits où il y a des précipices vertigineux, il a préparé un chemin pour nous. En tout cas pour ceux qui l'aime, pour ceux qui veulent le suivre. La foi nous apporte ce qu'aucune idéologie, aucune religion ne peut nous apporter, aucun psychiatre, aucun médecin, aucune drogue. La foi. Dans l'insécurité, il y a la sécurité de Dieu. Dans l'incertitude, il y a la certitude de Dieu. Dans les ténèbres, brille la lumière de la parole de Dieu. Sa parole est extraordinaire. Combien de fois n'ai-je pas trouvé de réponse à mes questions, à mes dilemmes, à mes problèmes, simplement en ouvrant ma Bible ? Elle est une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Alors avec assurance, nous pouvons donc avancer dans les temps les plus incertains, en nous appuyant sur les promesses de Dieu et en les proclamant de notre bouche, en les proclamant de notre bouche, comme l'a fait Gilles Pin, lorsqu'il était en prison, quelle que soit notre situation, proclamons la parole de Dieu, proclamons la parole de foi au travers de notre bouche. Que notre foi soit connue de tous, même si elle dérange parfois. Elle peut déranger, c'est vrai. Mais tant pis si la foi dérange. La foi plaît à Dieu. C'est la seule chose qui plaît à Dieu, notre foi, notre confiance en lui. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. J'en sais rien, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Amen. Amen. Mon désir, c'est que tu le saches aujourd'hui.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Écoutez, c'est Phare FM.
Gentiment, faut qu'on parle gentiment. Et sentiment, faut qu'on parle sentiment. Ah, et compliment, tu donnes des frissons comme le piment. Tu viens de quel continent? Faut que je fasse mes documents. Ah, tu me fais des coulissons, mais oh, 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 qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mesdames, olé, yo, mesdames, olé, la vie d'Elmosa. Oh, 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 oh bonita, les villas, les bolidas, vivre à Santa Monica. Un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita. Tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles. T'aimes trop faire ta loquita. Et le soir tu danses comme Anita. Ah, tu me fais les coulisses sombres. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? Oh mamacita, pourquoi t'as fait ça? Oh mamacita, pourquoi t'es comme ça? M'enamoré, yo m'enamoré. La vida hermosa te daré. Mamma, toi contre moi, ma mamma. Moi contre toi, ma mamma. Jusqu'à Rio, oh.
Rizza sur Phare FM, mais enamoré. Il est 2h15 déjà passé et on poursuit notre programme. Les langages de l'amour, votre prochain rendez-vous, ne le manquez pas. Mais avant cela, on écoute encore deux titres. André de Silva, Lose Myself et tout de suite Hope Dust, Mighty Name of Jesus, en espérant que ça va. Et bienvenue à vous qui venez de me rejoindre. La radio autrement avec vous, dans la nuit autrement.
Into the atmosphere, Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name. Draw
l'âge de l'amour.
Êtes-vous capable de trop d'éloges envers vos enfants ? Je pense que oui. D'abord, il convient de faire une distinction entre paroles affectueuses et éloges. Les paroles affectueuses se concentrent sur la personne que l'enfant est. Les phrases « je t'aime »,« tu es si belle »,« j'adore la couleur de tes cheveux » sont des paroles affectueuses. L'éloge, elle, se concentre sur ce que l'enfant fait, quelque chose qu'il contrôle plus ou moins. « Super bien attrapé », »,« excellent travail » sont des éloges. Les enfants savent quand ils méritent réellement la louange qui leur est adressée ou celle-ci est formulée simplement afin qu'ils se sentent bien. Les louanges exprimées de manière aléatoire ne sont pas sincères. Alors, lorsque vous ne pouvez pas faire l'éloge de la performance, louez l'effort. Tu as travaillé dur et je suis fier de toi. Vous voulez louer vos enfants ? Alors, assurez-vous que cela soit vrai et justifié.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, écoutez, respirez, la vie a un son.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey!
On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
La vie c'est des envies, l'envie avant les avis.